Chapitre 4.
Welcome on board. I'm Dr. Emmett Lloyd, and I'll be your guide.
Emmett Lloyd ressemblait à un grand-père rassurant. 1,95 m, fin comme une tige de maïs, les cheveux gris rabattus en arrière par de la cire jusqu'à la nuque, et d'imposantes lunettes carrées pour souligner son regard d'intello brillant. C'était lui qui avait accueilli le groupe de Zoé et Romy sur Lux 1. À peine sortis du monte-charge, ils avaient été répartis en grappes de 8 personnes, chacune confiée à un responsable. À partir de maintenant, tout se faisait en anglais, quasiment l'unique langue utilisée à bord. « I'm here », pour vous expliquer un peu comment ça marche ici. Emmett parlait vite, mais Romy et Zoé avaient le niveau. Leur cerveau n'avait plus besoin de traduire, ils comprenaient. « Pas d'inquiétude », poursuivit Emmett. « Vos affaires sont étiquetées et elles seront acheminées dans vos cabines. Ça nous laisse le temps de faire une petite balade avant votre douche bien méritée. Vous êtes ici sur Lux 1, la plateforme de vie. Les quartiers personnels de chacun, les espaces de détente et quelques bureaux administratifs qui n'ont pas trouvé de place ailleurs, c'est ce que vous découvrirez ici. » Zoé avisa les visages autour d'elle. Elle les avait croisés à bord de la frégate, mais ne les connaissait pas encore, à l'exception d'Ethan Gabriel et son look de rocker hipster, et de Simon, un peu en retrait. Le sociologue affichait à nouveau ce masque impassible et distant. Elle profita de ce qu'il ne l'avait pas remarqué pour le scruter plus en détail. Sa nonchalance vestimentaire, sa posture de sportif, sa chevelure trop longue. Il dégageait quelque chose de profondément mélancolique que Zoé était peut-être la seule à discerner sous le masque. Était-ce là la fameuse motivation personnelle qu'il avait évoquée au parc Monceau? Penser sa propre noirceur? Il pivota et Zoé s'empressa de se tourner pour que leurs regards ne se croisent pas. Elle n'éprouvait pas de regret d'être venue en cet instant. Mais sa rancune à son égard, pour ce qu'elle considérait comme une forme de manipulation, était revenue. Emmett leur fit signe de le suivre, et tous embrayèrent sur la large coursive à ciel ouvert qui s'enfonçait au centre de Lux 1, circulant entre deux bâtiments d'au moins 4 étages qui ressemblaient à d'énormes préfabriqués. Ce qui les attendait ensuite déstabilisa Zoé. Au centre de la plateforme se dressait une forêt. L'allée entrait littéralement dans un espace végétalisé, où la frondaison des arbres se rejoignait au-dessus de leur tête, où le sol devenait de la terre, de la mousse et des massifs de fougères. « Nous l'appelons le parc », exposa fièrement Emmett. « 1 200 m² de respiration !» Zoé nota que tout respirait le neuf. Cependant, malgré des moyens exorbitants, la hâte pouvait se percevoir dans les détails. Comme ce fin tuyau qui sourdait du terreau, percé, et qui créait une flaque entre les racines d'un arbuste.
« Le complexe est si grand que ça ?»
fit un homme qui ressemblait vaguement à Gandhi avec sa bouille ronde, sa moustache blanche et ses lunettes.
« Oh oui, il y a 3 niveaux sous nos semelles, essentiellement des parties techniques sans grand intérêt pour vous, et 5 au-dessus, plus les tours. Ces plateformes étaient déjà parmi les plus colossales lorsqu'elles servaient dans le golfe du Mexique, lors de leur vie précédente, et désormais, leur assemblage est la structure flottante la plus grosse dans le monde. Tout a été refait, un peu dans la précipitation, je vous l'accorde, mais ça devrait nous convenir. Rassurez-vous, ça ne bouge pas, personne ne sera malade. » De fait, Zoé constata qu'elle ne percevait aucun mouvement depuis qu'elles étaient montées à bord. René s'échappa des pieds de ses maîtresses et s'avança parmi les troncs. Il en renifla plusieurs et leva la patte pour uriner dessus. Ses yeux exprimaient tant de joie, ses babines retroussaient tant de plaisir d'enfin retrouver un peu de verre, que l'assemblée se mit à rire. « Eh bien, » fit Emmett, « nous n'avions pas envisagé cet usage, mais après tout, c'est le cycle de la vie, non ?»
Il se remit en marche, les entraînant dans l'un des 4 chemins qui se dessinaient très clairement dans le petit bois, et désigna une structure massive à travers le feuillage.
« Il y a 3 bâtiments sur Lux 1. Votre groupe loge dans le numéro 2. Nous leur avons donné des petits sobriquets. Vous dormirez chez Darwin. J'espère que ça vous conviendra. Ce parc est au milieu de Lux 1, donc vous ne pouvez pas le manquer. Il sera votre point de repère. »
Il désigna un chêne, assez solide et grand pour avoir au moins l'âge du docteur Lloyd.
Lui, c'est Yggdrasil, au cœur du cœur.
Il a survécu à sa transplantation ici? S'étonna une femme en retrait.
Nous avons fait de notre mieux,
répliqua Emmett d'un air triomphant.
C'est vous qui avez géré tout ça? Oh, nous sommes une douzaine. Je fais partie des heureux élus à rester et à veiller sur la structure, entre autres. Je suis surtout coordinateur des missions. Cela signifie que vous me verrez toutes et tous régulièrement pour faire le lien entre les travaux des groupes. Mais chaque chose en son temps. Venez. Emmett fit un tour rapide de Luxin, leur montra les trois immeubles d'habitation, désigna la piste d'hélicoptère en hauteur et expliqua que celle-ci n'en était pas une, mais que ce serait la surprise pour le jour où ils y mettraient les pieds. Pendant la visite, chacun ne pouvait s'empêcher de lever le nez vers Sphère, qui brillait au-dessus d'eux, parfaitement dans l'axe. Leur soleil personnel. Puissant, mais pas étourdissant. Ardent, mais pas incendiaire. Sphère était une présence qu'il était difficile d'oublier, ensorcelante. Zoé, autant que Romy, la contemplait régulièrement, comme pour se faire une piqûre de rappel. Non, elle ne rêvait pas. Non seulement cette chose était bien réelle, mais les deux femmes étaient bien présentes face à elle. Emmett résuma ce qu'il fallait retenir une fois revenu près du monte-charge. « Le gros bébé tout en longueur derrière moi, c'est Darwin, votre maison. En face, le joufflu qui monte haut, c'est Marie Curie. Des chambres uniquement. Et de l'autre côté du parc, l'énorme bestiau, c'est Rosalind Franklin, avec la zone de détente en plus des appartements et bureaux. Rien de bien compliqué. Ici, on est sympa, on s'appelle par nos prénoms. Donc si on vous donne rendez-vous chez Marie ou Rosalind, vous saurez où aller. Et les autres plateformes ? Interrogea Ethan Gabriel en lissant sa barbe. Lux 2 abrite les laboratoires. C'est là que nous travaillerons. Quant à Lux 3, c'est la logistique. Vous n'aurez pas besoin de vous y rendre. Chacune est reliée aux autres par deux passerelles. Ah oui, les accès. Emmett leur fit signe de le suivre jusqu'à une des portes d'entrée de Darwin et leva le badge qui pendait à son cou. Vous allez tous recevoir ce sésame. Ce sera votre clé, votre carte de crédit, votre pièce d'identité et de sécu, bref, votre âme. Ne la perdez pas ou vous ne serez plus personne. Pire, vous serez obligé de passer le restant de votre existence à sonner et à attendre. Bref, dans les limbes. Il désigna un interphone sur le rebord. Et n'en doutez pas. J'en ai fait l'expérience, c'est à croire qu'il n'y a jamais personne à l'autre bout du fil. Puis il bipa son badge contre la cellule à hauteur de cœur sur la lourde porte, qui s'ouvrit dans un claquement magnétique. Romy et Zoé se regardèrent, surprises. « C'est militaire ici !» grogna la jeune femme. On passa aux formalités administratives en leur donnant effectivement leur badge, à porter sur soi en permanence pour accéder à toutes les installations. À Ethan Gabriel, qui commençait à s'indigner d'être fliqué en permanence, on rétorqua que c'était une mesure de sécurité. Il y avait des matériaux dangereux à bord dont il fallait protéger l'accès. Et l'intimité de chacun était également garantie par la carte puisqu'elle servait d'accès à leur chambre. Le barbu ne sembla pas convaincu, et Romy lui adressa un clin d'œil complice. Elle non plus n'aimait pas ce principe. Emmett leur montra le mess de Darwin. Chacun des trois bâtiments de Lux 1 en disposait. Et les membres des équipes étaient bien entendu libres de prendre leur repas où bon leur semblait. Le mess traversait Darwin de part en part, et une baie vitrée occupait chacun des murs extérieurs, l'un donnant sur le parc au nord, l'autre sur l'océan au sud. L'endroit était moderne, en bois et coussins, chaleureux. Puis ce fut au tour des installations sportives et l'inauguration de la fosse, spécificité de Darwin. Tout un espace au premier sous-sol, aménagé pour recréer l'ambiance d'un bar américain, avec billard, néon et tout le décorum attendu. « Je crois que je vais me plaire ici !» annonça Romy à sa mère. Et enfin, leurs habitations. Zoé et Romy disposaient chacune de son chez-soi, au quatrième et dernier étage de Darwin. Zoé s'était attendue au pire et fut agréablement détrompée. C'était certes petit, à peine une table avec tabouret, un petit bureau, une salle de douche et une couchette, mais confortablement aménagée. Là encore, tout en boiserie, lumière indirecte, l'un pour les abat-jours des appliques, la tête de lit et le rideau devant la fenêtre, laquelle avait des dimensions tout à fait correctes, loin d'un hublot étriqué. Réagissant à la taille de sa chambre, Zoé désigna René à sa fille. « C'est toi qui dors avec lui. »«
Même ! C'est une turbine la nuit !»
Tu as voulu l'amener ? Une nuit sur deux, alors. 3/4.
Ok, soupira Romy devant le regard intrigué de René qui comprenait qu'il était l'enjeu d'un débat crucial. Allez, viens, patate. Tu vas m'aider à défaire mes sacs. L'après-midi touchait à sa fin. Emmett les avait prévenus que leur première journée démarrait le lendemain, à 8h30 devant le mess. Et Zoé voulait tout installer avant de prendre une douche chaude et de dormir tout son saoul. Elle se sentait saturée d'informations et avait besoin de déconnecter. Dehors, par la fenêtre, elle pouvait deviner que la lumière du jour avait légèrement décliné. Pourtant, un halo blanc tombait du ciel au-dessus de Lux 1. Zoé réalisa alors qu'elle ne s'était jamais interrogée sur ce qu'il se passait la nuit avec Sphère. Est-ce qu'elle brûlait toujours avec la même flamboyance ou donnait-elle des signes d'altération? En d'autres termes, y avait-il en elle une forme de cycle? « Tu vas pas tarder à le découvrir par toi-même », dit Zoé à voix haute. Il y avait tant de questions qui se posaient, maintenant qu'elle était là. Elle attendait des réponses.